Ça va, vous m'entendez? Non, pas trop, ça va? Oui, vous m'entendez bien. Bonjour, bonjour. Oui. Voilà, donc c'est la deuxième série de prédications que nous allons continuer sur David. La semaine dernière, nous avons commencé la première prédication pour parler un peu le contexte, comment arrive à David est choisi par le Seigneur. Dans le chapitre précédent, oui, Dieu avait rejeté Saül, mais il est encore toujours sur le trône. Dans le chapitre précédent, Dieu avait choisi David, mais il est encore berger. Et puis, ce que nous pouvons aussi remarquer dans le chapitre précédent, donc 1 Samuel 16, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Alors que l'Esprit de Dieu repose sur David. On voit un peu le contraste entre Saül et David. Donc nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 17, qui s'inscrit dans un moment où Israël est paralysé par la peur. Je ne sais pas si vous avez deviné le sujet de ma prédication de ce matin, hein. Avec le dessin, merci Myriam, pour ce beau dessin. Voilà, le peuple d'Israël, l'Israël est paralysé par la peur d'un géant, Goliath. Et voilà, à ce moment-là, Saül, le roi, est affaibli spirituellement. Il a été rejeté, comme je vous avais dit, par le Seigneur. Et puis, surtout, dans le chapitre 17, Dieu prépare, dans l'ombre, un homme selon le cœur de Dieu, pour manifester sa gloire. Dans le chapitre 17, donc, on voit un événement, une guerre, une bataille entre l'Israël et les Philistins. Les deux armées sont positionnées sur deux montagnes, ou deux collines, on peut dire comme ça, opposées, séparés par la vallée d'Ela. Et donc les Philistins occupent une hauteur, et puis les Israélites occupent aussi une autre hauteur. Entre les deux, donc, je disais qu'il y a une vallée large et dégagée. Militairement parlant, celui qui descend dans la vallée est en position de faiblesse, puisqu'il est en bas, et donc il est exposé, et puis visible de tous, donc sans protection naturelle et vulnérable aux archers, aussi aux projectiles ennemis. C'est pour ça qu'aucune armée ne voulait donc abandonner leur position du terrain élevé pour aller sur cette vallée-là. Du coup, il y avait un blocage total. C'est à ce moment-là que le géant Goliath apparaît. Il propose un combat représentatif, c'est-à-dire, c'est une pratique connue dans l'Antiquité où chaque camp envoie leur champion. Et le champion représente toute la nation. Et la victoire de l'un équivaut à la victoire de son peuple. C'est pour ça que Goliath propose ainsi, « Si je gagne, vous serez nos serviteurs. Si vous gagnez, nous serons les vôtres. » Donc, ils utilisent cette stratégie qui est très avantageuse pour eux, puisqu'ils avaient leur Goliath. Alors que chez les Israélites, on pourrait dire le plus grand, c'est le roi Saül, qui avait une tête de plus que les autres, apparemment. Voilà, ce Goliath était un soldat bien entraîné, et il était vraiment très très fort. En réalité, Goliath n'était pas seulement une arme physique, mais il était aussi une arme psychologique. Il vient tous les jours, matin et soir, pour défier l'Israël. Il était imposant avec sa taille, avec son armure, super grand, apparemment il faisait presque 3 mètres. Donc imaginez un gars, déjà 2 mètres, c'est super grand. Peter, tu fais combien de mètres? Presque 2 mètres. Déjà Peter est impressionnant. Donc, imaginez encore un mètre de plus, ça fait 3 mètres. Et en plus, c'est pas juste un petit gaillard, c'est avec une posture assez imposante. Et puis avec une voix assez, voilà, portante comme ça. Et tous les jours, il provoquait l'Israël. Tous les jours, pendant 40 jours. Là, il y a eu un épuisement mental, psychologique. pour et l'Israël était complètement déstabilisé par la peur, paralysé par la peur. Et ça a fonctionné parce que personne ne bouge, personne ne parle en disant « mais comment il ose ?» Non, même pas, il se tue. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où ils vont dire « mais comment tu oses dire ça de notre Dieu ?» Dans ce cas-là, le Paul va dire « ah bah, eh bah, t'es courageux, vas-y. » Donc, pour éviter de mourir, personne n'ose dire un mot. Même Saül, ouais, comme je disais, qui avait une tête de plus que les autres, se tait. Je dirais que la guerre, la bataille est déjà gagnée dans les esprits, avant même que la bataille commence. Vous savez que la Bible, c'est quelque chose, c'est pas juste une histoire qu'on vous raconte. Il faut aussi extrapoler par rapport à notre vie quotidienne. Là, on pourrait réfléchir, qui est mon Goliath actuellement ? Dans votre vie personnelle, qui est votre Goliath maintenant ? C'est vrai que tout au long de notre parcours, nous faisons face à de nombreux imprévus, à des difficultés qui peuvent même nous menacer. Des situations difficiles surgissent parfois sans prévenir. La maladie incurable, les échecs, que ce soit professionnels, scolaires, les problèmes familiaux, les problèmes relationnels, problèmes financiers, problèmes spirituels. Quel est en ce moment votre Goliath que vous devez surmonter ? Réfléchissez un peu. David, lui, arrive sur le champ, sur ce champ de bataille, et la première chose qu'il remarque, ce n'est pas la taille du Goliath, mais il remarque la peur qui paralyse les soldats d'Israël. Ils sont complètement submergés par la crainte de ce grand géant. Et comme je vous avais dit, ça fait 40 jours qu'ils ont subi ça. Et puis là, c'est maintenant, c'est le 41e jour où David arrive. Et il apporte un nouveau regard aux autres. On peut subir plein d'épreuves dans la vie. Ça peut être vraiment un grand Goliath que nous devons faire face. Je ne sais pas comment vous avez survécu à tous ces Goliaths dans votre vie. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré un ami dans mon ancienne église. Il était d'ailleurs mon médecin traitant. On était assez proches. Quand j'avais un torticolis, en plus il était médecin et ostéopathe, donc c'était sympa. Il débloquait ma nuque instantanément, comme ça, en 15 minutes de manipulation. Et on discutait beaucoup. Et là, un jour, il m'annonce, écoute, Jean, je suis atteint de leucémie. Phase terminale. On me dit, j'ai 6 mois à vivre. C'est un choc. Médecin, une bonne situation familiale, riche aussi. Quand j'allais dans sa maison, c'est waouh, c'est vraiment, c'est une colonie de vacances, quoi. Une belle famille, et puis tout à coup, une épreuve. Insurmontable, on lui annonce maladie incurable, phase terminale, dans 6 mois il meurt, enfin probablement on lui dit. Il y a des médicaments qui sont en train de, voilà, des nouveaux médicaments qui arrivent et il va essayer plein de choses. Il a vécu encore quelques années, 2 années, un peu plus de 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, après il est décédé. Mais vers la fin de sa vie, il m'a dit, écoute, je sais que je vais bientôt mourir, mais je remercie le Seigneur parce que cette épreuve m'a fait grandir. Il m'a donné tout ce temps pour préparer la mort, ma rencontre avec le Seigneur. J'ai pu mettre de l'ordre dans ma vie personnelle que j'avais cachée. Personne ne se connaissait. On le voyait
une famille adorable, mais il y avait encore des choses à régler. Il a dit, ça a permis de régulariser certaines choses avant la rencontre avec le Seigneur. Il était reconnaissant. Bien sûr, au début, quand 6 mois est passé, 1 an est passé, il a dit, hé, Jean, je suis sûr que le Seigneur va me guérir. Il avait la foi, c'est vrai, que Dieu allait agir. Mais parfois, vous savez, Dieu n'agit pas forcément comme nous, on espère. Il a une autre solution, une autre voie. Et il faut savoir accepter ce chemin. Voilà, un peu. Dieu aurait pu le guérir complètement. Et on aurait pu dire, Alléluia, Amen. Mais il a aussi dit, Alléluia, quand il a su qu'il allait bientôt mourir. Comment vous vous réagissez devant votre Goliath? Devant la taille impressionnante de Goliath et devant son armure imposante, sa puissance imposante, apparente, David n'était pas du tout influencé par ce qu'il voyait. Il n'a pas nié la réalité. Il a bien vu le problème. Mais il refusait de laisser le problème définir son comportement, sa réaction. Son objectif, bien sûr, n'était pas du tout sa propre gloire. Ni l'argent, ni le mariage avec la fille du roi lui intéressaient. Bien sûr, c'est parce que le roi Saül avait promis, celui qui battait le géant Goliath, allait se marier avec sa fille. Mais ce n'était pas ça, son objectif. Ni la reconnaissance du peuple. Son but était clair, faire taire l'ennemi de Dieu. Goliath ne se moque pas seulement d'Israël, mais il outrageait le Dieu vivant. Et David s'était levé pour défendre l'honneur de Dieu. Voilà un petit berger qui vient visiter ses frères. Et là, tout à coup, il prend le courage pour dire la vérité. Et puis, on pourrait l'applaudir, n'est-ce pas, pour son action, son courage. Et qu'est-ce qui se passe? Pourtant, voilà, ce qu'on voit, c'est que la réaction de David provoque la colère de son frère aîné, qui l'accuse d'orgueil, de mauvaises intentions. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Eh mais, t'as laissé tomber ton travail? Et tu viens ici? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Comment il peut accuser comme ça son petit frère qui est prêt à combattre? Moi, en tant que grand frère, j'aurais dit, écoute, David, non, c'est trop dangereux là ce que tu es en train de faire. Mais au lieu d'être bienveillant, il l'accuse. Il l'accuse, oui, d'avoir abandonné ses propres brebis pour assister au combat. Devant ce genre de réaction, moi, en tant que David, si c'était David, j'aurais dit, hey, « Hé, mon frère, je suis venu parce que notre père avait ordonné de faire ça. » Il aurait pu se défendre comme ça. Et puis, ben, tant qu'à faire, il m'a demandé aussi d'apporter de la nourriture pour vous, c'est pas pour moi. Il aurait pu se défendre ainsi. Mais il ne le dit pas. Il dit tout simplement, « Qu'ai-je donc fait ?» Ne puis-je pas parler ainsi? Il n'argumente pas, il ne donne pas de raison de sa venue. Et puis il se détourne de lui pour s'adresser à un autre, etc., pour poser encore les mêmes questions, qu'est-ce qui se passe, et voilà, et il leur donne aussi sa position pour encourager chaque personne qu'il rencontre. Pourquoi Eliab a agi comme ça? Peut-être qu'il était jaloux depuis que Samuel avait oint David en tant que le futur roi. Au lieu de l'encourager, de s'inquiéter pour lui, il l'accuse, il le rabaisse. Et vous savez que dans notre vie, il arrive que même si vous voulez marcher sur la voie du Seigneur, il arrive que ceux qui devraient nous soutenir, parfois c'est eux qui sont les premiers à nous jeter la première pierre pour mettre le bâton sur la roue. Ils disent des paroles négatives pour nous décourager, avec du mépris parfois. Mais David, lui, il avait la foi. Et même s'il se sentait seul, incompris, isolé par rapport à son frère et peut-être certaines d'autres personnes, il sait que Dieu ne l'abandonne pas. Et c'est comme ça qu'il continue à proclamer haut et fort qui est Dieu. Après que ce bruit soit ébruité un peu partout, Saül entend David, les paroles de David. Et il lui fait venir, il le fait venir. Donc David est devant le roi. Et il lui dit ceci, le petit berger, le petit gamin qui vient donner de la nourriture pour ses frères, il dit au grand roi, qui doit être encore plus grand que lui, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous voyez, un petit garçon. Parfois, la vérité sort de la bouche d'un enfant. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Jusqu'ici, maintenant, personne ne parlait. Mais là, il apporte une parole d'encouragement. Que personne ne se décourage. Aujourd'hui encore, ce message est d'actualité. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés par les problèmes qui semblent être un Goliath devant vous. Car Dieu utilise souvent ce que les hommes considèrent comme faible pour accomplir de grandes choses. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, 27, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. » Face à cette déclaration, Saül, le roi Saül, répond de manière très humaine. Après avoir entendu voilà, David qui est prêt à combattre contre Goliath, il dit « Tu ne peux pas aller. » Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Et lui, un homme de guerre depuis sa jeunesse. Voilà. Un deuxième obstacle aussi. Au début, Eliab, son grand frère, se moquait de lui. Mais là, maintenant, avec plein de bienveillance, il défend à ce petit enfant d'être massacré par le grand géant. Oui, aux yeux des hommes, David n'avait aucune chance. Mais bon, David ne répond pas par de l'arrogance. Sa réponse était simple. Parlait de sa vie passée. Témoignait ce que le Seigneur a fait dans sa vie jusqu'à maintenant. Et il raconte comment, en tant que berger, il a affronté le lion. Il a affronté l'ours pour protéger les brebis de son père. Parce qu'à travers tous ces combats, tout seul, il a pu comprendre quelque chose d'essentiel. Le même Dieu qui m'a délivré hier, le délivrera aussi aujourd'hui. C'était ça, sa conviction, sa foi. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Parole forte. Parole de confession de foi. Parole positive. Vous savez, la parole a une grande puissance. Souvent, on ne se rend pas compte. Je vois certaines personnes qui disent toujours des phrases très négatives. Ah mince, je suis perdu. Oh non, je n'y arriverai jamais. Je ne vaux rien. Je suis moche. Je ne suis pas belle. Ou encore, oh, c'est trop dur pour moi. Ou encore, oh, personne ne m'aime. Toujours des paroles très négatives. Vous savez que ce genre de prononciation, ça nous influence aussi. On s'écoute nous-mêmes et on est influencé. Israël était envahi par la peur et voilà. Et les gens qui expriment leur peur, ça apporte encore plus de peur. Mais le Seigneur, lorsqu'il est avec nous, on peut briser ses liens, apporter des paroles positives et aussi parler avec confession de foi, avec la foi, avec Parce que si on est convaincu que le Seigneur est avec nous et que nous serons victorieux, on dira des choses positives. Et il a bien dit que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, donc c'est pas seulement juste une imagination, c'est de l'expérience qu'il partage. C'est pas la première fois qu'il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il a déjà vécu extraordinaire, des choses extraordinaires dans le passé. Et il va reproduire aujourd'hui. Me délivrera. L'Éternel me délivrera aussi, également, de la main de ce Philistin. On voit ici vraiment la foi solide, fondée sur l'expérience personnelle. Sa confiance repose sur la fidélité passée de Dieu. Devant cette confession, Saül finit par autoriser David à combattre ce grand Goliath, et lui donne son armure. Donc voilà. Hein. Mais vous savez, il y avait une grande différence de taille entre Saül et David. Donc imaginez un petit enfant en train d'être habillé par des grandes armures. Hein. Il avait du mal à bouger, etc., pour combattre le grand Goliath. Donc du coup, ben, voilà, après quelques essais, il dit « Non, non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout. » Et Dieu, enfin, David la refuse. Non pas par orgueil, mais parce que voilà, sa victoire ne viendra pas par des moyens humains, mais de Dieu. Il le savait très bien. Il prend alors ce qu'il connaît de mieux, c'est-à-dire son bâton, sa fronde et 5 pierres 10. Rien d'impressionnant aux yeux des hommes, mais suffisant entre les mains de Dieu. Cela montre vraiment une confiance totale dans le Dieu vivant. Lorsque Goliath donc s'approche et voit David, ce petit enfant qui vient, il le méprise. Pour lui, David n'est qu'un enfant sans valeur et il l'insulte, le maudit par ses dieux. Mais David ne se laisse ni intimider ni impressionner par ce grand Goliath. Il répond avec une déclaration puissante : tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il avait une telle assurance. Pourquoi ? Parce qu'il avait vraiment compris que le combat n'était pas simplement humain, mais que c'était une guerre spirituelle. Et qu'il avait vraiment la certitude qu'il allait remporter la victoire. La véritable inquiétude ne se trouve pas lorsque nous affrontons un géant avec Dieu à nos côtés, mais la vraie inquiétude commence lorsque nous nous retrouvons contre Dieu. Est-ce que vous êtes avec Dieu ou vous êtes contre Dieu? Si vos œuvres sont contre Dieu, c'est là où on devrait s'inquiéter le plus. Il continue encore, verset 46-47, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Oui, la victoire appartient à l'Éternel. Lorsque le Philistin s'avance vers David, celui-ci ne recule pas. Au contraire, il court à sa rencontre. Ce geste est fort, David ne subit pas le combat, il l'affronte avec foi et il prend une pierre, la lance avec sa fronde et il lance et elle atteint le front de Goliath. Et qui s'écroule face contre terre, il s'approche, il prend son épée et il le décapite pour le tuer. Une seule pierre a suffi pour terrasser ce grand géant, Goliath. Aux yeux des hommes, une pierre n'est rien. Elle est petite, insignifiante, même je dirais sans valeur, on peut trouver partout. Pourtant, entre les mains de Dieu, cette pierre devient l'instrument de la victoire. Cette pierre nous renvoie aussi à une image prophétique, Jésus-Christ, qui est appelé comme pierre angulaire. Lui aussi, il a été méprisé, rejeté, considéré comme faible. Pourtant, c'est par lui que la victoire définitive a été remportée sur le mal, et sur la mort. On peut voir ça aussi par rapport à Daniel 2, où une pierre se détache sans l'aide d'aucune main humaine et détruit une statue qui représente les royaumes de ce monde. On voit que cette pierre devient ensuite une grande montagne qui remplit toute la terre. Cette image, en tout cas de Daniel 2, annonce déjà le règne de Dieu, fondé non sur la force humaine, mais sur la puissance divine. Je reviens encore à l'histoire de David et Goliath. À la fin du combat, les Philistins perdent courage. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient mis toute leur confiance en Goliath. Leur force, leur assurance, leur espoir reposaient sur un seul homme. Et quand cet homme tombe, tout s'écroule. C'est une image assez forte. Lorsque nous plaçons notre confiance dans l'argent, on peut placer notre confiance dans l'argent, dans le pouvoir, dans la position sociale ou dans la capacité humaine. Et si on a vraiment des choses assez fortes dans tous ces domaines-là, tout semble être solide, mais jusqu'au jour où justement ces choses disparaissent. Alors on se sent déstabilisé, découragé, parfois même brisé intérieurement. En fait, tout ce qui est humain est fragile et passager. Tout ce qui est humain est fragile et passager. Tout passe. Seul Dieu demeure éternellement. Seule sa parole ne disparaîtra jamais. C'est pourquoi, à l'exemple de David, nous devons fixer nos regards sur Dieu, non sur les géants, non sur les armes, non sur nos forces, mais sur l'Éternel, le Dieu vivant, car la victoire lui appartient pour toujours. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te confessons que les géants existent, hier comme aujourd'hui. Ils prennent la forme de la peur, des épreuves, des échecs, des incertitudes de la vie. Mais ce récit nous enseigne que la victoire ne dépend ni de la force humaine, ni des armes, ni des apparences, mais la victoire appartient à toi seul. David n'était ni le plus fort, ni le plus expérimenté. Pourtant, il a été choisi par toi, utilisé comme ton instrument pour réaliser un grand miracle pour la victoire de son pays. De la même manière, Seigneur, oui, aide-nous vraiment à manifester ta gloire dans notre vie personnelle lorsque nous sommes face à des grands Goliaths, Seigneur. Toi qui utilises notre faiblesse aussi pour confondre ce qui est fort, aide-nous vraiment à nous confier entièrement à toi avec foi pour expérimenter ce que David a expérimenté. Seigneur, donne-nous vraiment les yeux de David pour voir non pas l'apparence, mais la vérité. Que nous ne reculions pas, Seigneur, devant les menaces de l'ennemi. Je ne sais pas ce que chacun, la préoccupation de chacun aujourd'hui, ce matin, mais aide-nous vraiment à avancer avec assurance que si tu es avec nous, nous serons plus que vainqueurs. Seigneur, sur quoi repose notre confiance actuellement? Si c'est sur des choses futiles, aide-nous vraiment à nous recentrer sur toi, comme nous venons de chanter ce matin. Aide-nous à ne pas regarder sur nos moyens, nos ressources ou encore nos sécurités humaines, mais sur toi seul, toi qui es le Dieu vivant, éternel, toi qui restes fidèle à nos côtés. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.